Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
C'est vraiment pour dire à nos clients, écoutez, voilà, on est conscient de ce que vous avez subi, on fait un effort et on voudrait vraiment renouer le lien avec vous.
Opération Reconquête sur les rails. Europe 1 vous le révélait dès ce matin. Après la grève, la SNCF met en vente 5 millions de billets à prix bradé.
Alors quel train, quel trajet, tous les détails c'est dans quelques secondes.
200 patrons du monde entier invités sous les ors de Versailles. Oui, la France attire, répète Emmanuel Macron.
On fait des réformes, notre pays se bouge, y convainc les grands patrons du monde entier. Les résultats sont là.
8 milliards d'euros de nouveaux investissements annoncés, grosses commandes, notamment au chantier de Saint-Nazaire.
Dans ce journal également, deux enquêtes ouvertes après une vidéo montrant un policier frappant un manifestant. C'était samedi.
Et les nouvelles épreuves du bac perturbées dans plusieurs établissements par les professeurs et parfois aussi par les élèves.
Mardi, mercredi, tout est annulé. On peut dire que c'est une victoire. Surtout qu'on n'était pas prêts. Au final, on n'avait pas forcément envie d'y aller pour le louper, quoi.
Et enfin, le nouveau président du Goncourt, Didier Decoin, qui succède à Bernard Pivot.
La Bourse de Paris en baisse de 0,36% à 6078 points ce soir.
Bonsoir Anissa.
Bonsoir Nathalie, bonsoir
à
tous.
Le ciel de ce mardi.
Alors demain, la journée s'annonce maussade dans le sud, très belle au nord. Et un département est placé en vigilance orange, pluie, inondation, neige, verglas. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Sébastien Krebs.
Les vacances de février, puis celles du mois d'avril. Comment regagner la confiance des voyageurs après un mois et demi de grève? Comment remettre des passagers dans les trains? La SNCF lance donc la reconquête. La directrice générale de voyage SNCF est venue l'annoncer ce matin en exclusivité sur Europe 1. 5 millions de billets seront mis en vente ce jeudi à prix cassé. Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir.
Alors sur quel trajet et à quel prix?
Eh bien, cette opération, qui est la plus grosse affaire de promotion de toute l'histoire de la SNCF, va concerner tous les trajets partout en France de TGV Inouï ou Ouigo prix moins de 35 euros. L'offre débute ce jeudi. Attention, hein, elle ne dure qu'une semaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez acheter des trajets qui vont aller jusqu'au 15 avril. Rachel Picard, la patronne du TGV, l'assume. Le but, c'est de nous redonner envie de prendre des trains.
C'est la première fois qu'on met massivement, c'est quasiment un quart des places en fait, hein, autant de billets à des prix aussi bas. Et c'est vraiment pour dire à nos clients, écoutez, voilà, on est conscient de ce que vous avez subi, on fait un effort et on voudrait vraiment renouer le lien avec vous.
Alors les abonnés du TGV vont aussi bénéficier d'un geste commercial. En février, 50 à 100% de leur abonnement sera remboursé.
Sauf que si j'ai déjà acheté des billets au prix fort, Emmanuel, on fait quoi?
Eh bien si vous avez des billets échangeables et ou remboursables et que vous trouvez des billets à ces prix intéressants, parce qu'il faut quand même bien se rendre compte, hein, derrière cette gigantesque opération de communication, il n'y a que quelques places à voilà. Ces prix dans les trains dont je vous parlais.
Ça va aller très vite.
Les prix d'assaut. Mais si vous y arrivez, eh bien oui, vous avez tout intérêt à annuler ou à vous faire rembourser ensuite vos billets. Et vous aurez donc quand même fait au passage une jolie économie.
Voilà les précisions d'Emmanuel Duteil, chef du service économie. Le trafic sur les rails largement revenu à la normale aujourd'hui, comme dans le métro parisien d'ailleurs.
Et vous avez entendu le conseil d'Emmanuel, hein, donc en fait il vaut mieux se précipiter, hein, pour ainsi dire. Voilà. Alors les plus durs du côté des grévistes, ex-grévistes ne désarment pas. Sébastien, nouvelle intrusion cet après-midi au siège de la CFDT.
Hein. Une quinzaine de militants de la CGT habillés de noir et encagoulés sont venus couper le courant au siège du syndicat réformiste. Deuxième intrusion en quelques jours, la branche énergie de la CGT dit vouloir dénoncer, je cite, la collaboration de classe.
Pendant ce temps, Emmanuel Macron vante ses réformes et une France attractive. Il reçoit encore en ce moment 200 grands patrons venus du monde entier. Choose France, choisir la France. C'est le message.
Ça se passe sous les ors du château de Versailles. Une étape désormais annuelle avant le forum économique de Davos. Avec de bonnes nouvelles déjà annoncées. 8 milliards d'euros de nouveaux investissements comme à Dunkerque où l'usine pharmaceutique AstraZeneca va s'agrandir et où le président est allé célébrer ce matin.
On fait des réformes, notre pays se bouge, il mobilise, il convainc les grands patrons du monde entier. Il fait des réformes sur le plan de la fiscalité, sur le plan du travail, sur le plan de l'organisation des territoires, pour attirer à nouveau ces investissements. Bilan des courses, les résultats sont là. Ces deux dernières années et demie, on a créé un peu plus de 500 000 emplois à nouveau. Surtout, on recrée des emplois dans l'industrie. Pendant 12 années, on avait détruit de l'emploi industriel. Depuis 8 mois, on en recrée. Je veux bien qu'on nous farcisse la tête de mauvaises nouvelles. On a l'impression que tout exploserait. C'est pas vrai, quand je regarde les chiffres du pays.
Emmanuel Macron avec Jean-Rémy Baudot.
Alors direction Versailles, justement. Carole Ferry, vous êtes sur place pour Europe 1. Le président et le gouvernement multiplient, enchaînent les rencontres. Hein. Oui, c'est ça. Donc, parmi ces 200 patrons, vous avez les dirigeants de Netflix, Google, YouTube, Hyundai, Nokia, General Electric, bref, tous les plus grands. Hein. Ce midi, ils ont déjeuné avec Édouard Philippe. Ce soir, ils dîneront avec Emmanuel Macron. Clairement, la France sent le grand jeu. Toute la journée, en effet, il y a eu des réunions en tête-à-tête entre les chefs d'entreprise et des ministres, 19 ont fait le déplacement, des organismes d'État ou d'autres grands patrons. C'est vraiment à la carte, en fonction des besoins de chacun. Par ailleurs, cette année, un nouveau dispositif a été présenté, les sites clés en main, 12 sites en France, sur lesquels toutes les démarches administratives ont été anticipées, mise aux normes environnementales, permis de construire, etc. Les investisseurs intéressés n'ont quasiment plus qu'à bâtir leur usine. Et selon le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, il y a eu aujourd'hui des marques d'intérêt. Une opération séduction qui fonctionne. On l'a vu, Choose France est devenue la journée où tout le monde annonce ses engagements. Vous avez eu par exemple aujourd'hui Coca-Cola qui a promis 1 milliard d'euros d'investissement sur 5 ans. Il y a eu les fameux 200 millions d'euros du laboratoire pharmaceutique AstraZeneca à Dunkerque. Ou encore JP Morgan qui a annoncé la relocalisation de 400 emplois de Londres à Paris.
Carole Ferry en direct depuis le château de Versailles. Quelques centaines de manifestants s'étaient rassemblés en fin de matinée. Ils ont été repoussés au-delà d'un large périmètre de sécurité.
On va filer à Saint-Nazaire justement, où on se réjouit après la grosse commande annoncée pour les chantiers navals.
L'armateur MSC va faire construire deux nouveaux paquebots. François Coulon sur place, c'est 2 milliards d'euros et même potentiellement beaucoup plus.
Oui, c'est une série d'accords historiques. Au total, 10 nouveaux paquebots en perspective pour MSC. Facture totale 7 à 8 milliards d'euros, du jamais vu ici. Christophe Morel, délégué CFDT.
Là, on a quasiment 10 ans de vision sur notre plan de charge. C'est du jamais vu. Quand on voit par où on est passé il y a quelques années encore, c'est impressionnant. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois pour 10 ans.
Alors, ce sont des navires innovants et moins polluants qui ont séduit l'armateur italo-suisse. 6 unités propulsées au gaz naturel liquéfié, 4 autres auront recours partiellement à des voiles rigides. L'ensemble devrait représenter près de 50 millions d'heures de travail.
Maintenant c'est bien quoi, on a du taf, on n'est plus en récession, chômage partiel et tout, on n'a pas tout ça maintenant. Ça fait du bien, c'est la belle vie maintenant, c'est ce que je vois maintenant.
Qu'est-ce qui fait que vous avez tant de succès?
Si on nous donne du boulot, c'est qu'on doit être bon.
En tant que patriote, je suis plutôt fier de voir ça. Ça va pouvoir montrer au monde ce qu'on est capable de faire, nous, en tant que Français. Avec cette bonne nouvelle, peut-être que je pourrais continuer ici, ce qui m'arrange beaucoup.
Voilà, premier bénéficiaire, les 10 000 salariés sous-traitants des chantiers, ils ne suffiront pas à la tâche, l'urgence est au recrutement.
François Coulon en ligne de Saint-Nazaire pour Europe 1.
L'attractivité de la France, justement, on en reparle après le journal avec mon invité depuis Versailles, le patron de Constellium, ex-Péchiné. Il a fait le choix, lui, de quitter Amsterdam pour installer de nouveau leur siège à Paris.
Et puis cette information du service économie d'Europe 1, les tarifs de l'électricité devraient augmenter de 2,4% cette année. C'est en tout cas la recommandation que s'apprête à faire la commission de régulation de l'énergie au gouvernement qui a ensuite 3 mois pour décider s'il suit cette recommandation ou pas.
Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Avec une nouvelle vidéo qui interpelle, qui pose question, un policier qui frappe un manifestant à terre. Que s'est-il passé exactement? Plusieurs versions s'affrontent. C'est à suivre dans votre édition de 18h.
Et puis les nouvelles épreuves du bac perturbées et même annulées dans plusieurs établissements.
2 heures d'infos, c'est votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Il est 18h10 sur Europe 1, la suite du journal avec Sébastien Krebs et Nathalie Lévy.
Les syndicats d'enseignants l'avaient promis, ils ont perturbé aujourd'hui les épreuves du nouveau bac qui débutait pour les classes de première.
Il s'agit du contrôle continu qui désormais compte pour la note finale en histoire géo ou langue vivante. Perturbations relevées dans une poignée d'établissements et parfois les élèves ont fait front commun avec les enseignants. C'est le cas à Montauban où vous vous trouvez Benjamin Péter et du coup tout est annulé pour les 3 prochains jours.
Oui, certaines épreuves qui devaient avoir lieu ce matin avaient déjà été reportées en début d'après-midi, mais profs et élèves de première occupaient toujours les salles de cours. Un fumigène a même été allumé, ce qui a obligé à évacuer les lieux. Résultat, le rectorat a décidé d'annuler toute la session pendant ces 3 jours. Nicolas fait partie de ceux qui ont boycotté les épreuves. Il ne se voyait vraiment pas passer le bac aujourd'hui.
Mardi, mercredi, tout est annulé. On peut dire que c'est une victoire. Surtout qu'on n'était pas prêts. Il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai fait une évaluation en géographie. Petit bac de cette année. Il y a eu peut-être 20 notes en dessous de la moyenne. Au final, on n'avait pas forcément envie d'y aller pour le louper quoi. Après je pense que le niveau politique c'est surtout les profs qui pensent à ça, mais moi personnellement c'est surtout pour les notes et avoir le bac quoi.
Beaucoup de professeurs eux aussi ont refusé de surveiller les examens de contrôle continu. Loïc Benayoun est professeur de maths. Pour lui, on a voulu organiser ces épreuves dans la précipitation.
Quand on a les sujets que 10 jours avant les épreuves c'est impossible, les élèves ne sont pas prêts, il n'y a aucun sujet faisable, donc on a dit qu'on ne peut pas faire dans ces conditions. Donc soit les épreuves sont reportées à très long terme voire annulées, soit c'est infaisable et on sera encore là la semaine prochaine.
Et maintenant ce qu'il qu'ils espèrent, c'est faire école, que d'autres lycées réussissent eux aussi à faire annuler ces épreuves de l'E3C pour forcer le gouvernement à reculer sur ce nouveau bac.
Benjamin Péter en ligne de Montauban pour Europe 1.
Et la réforme controversée du bac, on en parle dès 18h30 avec nos grandes voix dans ce studio.
Cette information Europe 1 du service police-justice, un coup de filet antiterroriste a eu lieu ce matin à Brest et dans ses environs. La DGSI a interpellé 7 hommes appartenant à la mouvance islamiste. Ils sont soupçonnés d'avoir préparé un projet d'attentat. Pas de détails à ce stade sur la cible qui était visée.
Vous le disiez en titre et vous avez peut-être vu cette vidéo qui circule depuis ce week-end et qui choque. Un policier filmé en train de frapper un manifestant allongé au sol après son interpellation samedi.
C'était lors d'un rassemblement de gilets jaunes et ces images ont fait réagir jusqu'au ministre de l'Intérieur qui les qualifie de choquantes, qui promet une sanction en cas de faute. L'IGPN est saisi. Bonsoir Marion Dubreuil.
Bonsoir.
Alors tout n'a pas été filmé. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé autour et surtout avant ?
Eh bien si l'on en croit la version des policiers, le jeune homme de 20 ans faisait partie quelques minutes avant d'un cortège sauvage, virulent. L'unité de police, une brigade de répression de l'action violente, essuie à ce moment-là des jets de projectiles, pierres et bouteilles en verre. Les policiers interpellent un premier suspect, quand un deuxième, le jeune homme identifié sur la fameuse vidéo, s'interpose et se montre violent. Il a déjà une plaie au crâne sur les policiers qui emmènent le jeune homme à l'écart. Il aurait alors refusé les premiers soins et il aurait craché à plusieurs reprises sur le visage d'un policier. Une version que conteste aujourd'hui cet étudiant par la voix de ses avocats. Trois policiers, dont celui visé par l'enquête de l'IGPN, ont déposé plainte contre lui. Le jeune homme, qui se dit choqué par la violence de son interpellation, a passé le week-end en garde à vue. Il comparaîtra prochainement devant le tribunal correctionnel de Paris pour violence volontaire, rébellion et dégradation.
Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1. Par ailleurs, à Lyon, après la mort d'un policier fauché par un fourgon la semaine dernière, un homme qui a reconnu être le conducteur a été mis en examen aujourd'hui pour homicide volontaire.
L'inquiétude croissante maintenant à l'international et précisément en Chine face à un nouveau coronavirus qui a déjà fait 3 morts.
Ce virus qui provoque de graves pneumonies s'est propagé à plusieurs régions et même à 3 pays voisins. Il est transmissible entre humains, estime un expert mandaté par le gouvernement chinois. Le président Xi Jinping appelle à enrayer cette épidémie qui n'a touché à ce stade encore que 200 personnes.
L'Académie Goncourt a un nouveau président, on le sait depuis cet après-midi. Il s'appelle Didier Decoin.
C'est lui qui succède à Bernard Pivot et qui annoncera donc le prochain lauréat. Bonsoir Nicolas Caro.
Bonsoir.
Le vote s'est joué comme d'habitude dans l'antre du Goncourt, le restaurant Drouin.
Et c'est donc Didier Decoin effectivement qui l'emporte avec 5 voix contre 3 pour Françoise Chandernagor qui était favorite. Oui. Pourtant, Didier Decoin était journaliste, scénariste, écrivain bien sûr. On lui doit notamment John L'Enfer, prix Goncourt en 1977. Il est entré à l'Académie en 1995. Il en était devenu secrétaire général. Le voilà président. C'est un rêve qui se réalise.
J'ai jamais pensé une seule seconde à entrer à la Française. En revanche, j'ai toujours rêvé d'entrer à l'Académie Goncourt. Donc j'ai été fou de joie quand un jour Bazin m'a téléphoné en me disant « Vous êtes élu ?» Et je suis encore plus fou de joie. Enfin, en tout cas, c'est un sommet. L'Everest, c'est pour moi de présider cette petite compagnie.
Et en quoi va-t-il s'atteler pour commencer ?
L'urgence, c'est de trouver 2 nouveaux membres. Après le départ de Bernard Pivot et de Virginie Despentes, ils ne sont plus que 8. Il y a 10 couverts et il n'y a plus que 2 femmes. Les membres de l'Académie ont déjà lancé quelques idées cet après-midi. On connaîtra les noms des nouveaux jurés le 11 février.
Merci. Nicolas Caro, spécialiste littéraire d'Europe 1. Merci.
Et c'est bien parce que David Fuenkinos, écrivain, entre autres, vient nous rejoindre à 19h30 dans ce studio. On lui demandera ce qu'il en pense. Il a lu certainement De Coin, mais qu'en pense-t-il maintenant qu'il est donc choisi par ses pairs pour remplacer Bernard Pivot à la tête du concours ? Merci à vous.